I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sœur, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Pour ce 11e épisode, je suis allée à Aix-en-Provence pour discuter avec Aude. Il y a quelques années, Aude, c'était la blogueuse mode par excellence, celle qui mettait en avant de nombreuses marques de la tête aux pieds. Puis, Aude est devenue maman et cela a amorcé une prise de conscience qui a radicalement changé sa façon de vivre. Avec Aude, on parle de sa vie d'avant, de comment son besoin de changement s'est imposé à elle et de la manière dont elle transmet son mode de vie raisonné à ses deux filles et aux autres. Bonne écoute.
Bonjour Aude, merci d'avoir accepté de discuter avec moi dans Le Tourbillon.
C'est un grand plaisir pour moi aussi.
Alors pendant des années, tu as été blogueuse mode.
C'est
ça. Elle venait d'où cette passion pour les vêtements ?
Alors, j'ai choisi en fait de lancer un blog mode parce que, il faut que je raconte toute l'histoire, ça va être un petit peu long, mais en fait j'avais une grand-mère maternelle qui était couturière, donc du coup déjà je la voyais faire avec ses aiguilles, tout ça, je voyais qu'elle avait la passion de la matière pour créer, donc je trouvais ça trop beau quand j'allais chez elle, et j'avais aussi une maman qui est fashion addict, donc je me rappelle des placards où il y avait plein de paires de chaussures, elle adorait regarder les défilés à la télé, enfin c'était une grande passion pour elle, et je pense qu'elle m'a mise dedans depuis petite. Et donc j'ai décidé de créer un blog mode parce que j'avais lu un magazine où il était écrit qu'il y avait des filles qui lançaient des blogs où elles pouvaient justement parler de la mode et de leur passion pour la mode sur ces blogs-là. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas moi, ça me permettrait d'allier mes passions pour la photographie, la mode et l'écriture. Donc c'est pour ça que j'ai lancé un blog mode en 2009. Qui s'est appelé tout de suite The Little World of Fashion, le petit monde de la mode. Mmh. Et je travaillais aussi dans la mode à cette époque, puisque je travaillais pour Guess Europe, et je faisais souvent les allers-retours avec Florence en Italie, et j'étais passionnée par ce milieu, passionnée par les défilés. Voilà, je trouvais que c'était vraiment un petit monde, qu'on se retrouvait toujours un petit peu, qu'on recroisait toujours un peu les mêmes personnes. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé le petit monde de la mode.
Et du coup, à cette période-là, t'as acheté beaucoup de vêtements ?
Alors, au tout début, je me rappelle que oui, j'avais un peu cette tendance à être acheteuse compulsive. Je me servais beaucoup dans le mass market. J'étais vraiment vraiment dans la compulsion. J'achetais énormément de vêtements, de chaussures. Mais c'était, je me rappelle, des trucs un peu cheap. Donc, j'avais cette tendance à dépenser beaucoup d'argent, mais pour au final des pièces que j'allais pas garder. Et c'était vraiment dans le délire du blog mode, si on peut dire délire. Parce que c'était pour les shooter une fois. En gros, je les portais une fois, deux fois, et après, je les portais plus. Et j'avais l'impression qu'il fallait toujours avoir de la nouveauté pour alimenter, pour faire toujours des shootings différents, que les pièces se marient avec le lieu du shooting que j'avais choisi. Enfin voilà, j'avais cette façon de réfléchir qui était un peu particulière. Et en fait, au plus je bloguais, au plus je consommais. C'était un peu ce délire-là.
En 2013, tu étais au bord du burn-out.
Ouais, c'est ça.
Et ça t'amène à finalement t'impliquer dans une association qui s'appelle les Blues Roses.
Tout à fait. En fait, oui, c'est vrai qu'il y a eu de 2009 à 2013, ça a été assez fou parce que bah, moi, petite provinciale, d'un coup, je découvrais la grande vie, j'étais invitée à Paris, j'allais dans des événements de fou, je rencontrais des créateurs, j'étais là au défilé. Enfin, vraiment, j'avais une vie de dingue à 10 000. Et au final, c'est tout ce que j'avais rêvé quand j'avais commencé mon travail dans la mode. J'imaginais qu'un jour, je pourrais accéder à tout ça. Et j'étais super heureuse. Donc, l'enfant en moi était super heureuse de vivre ses rêves et de vivre un peu les rêves de sa maman par ce métier-là. Et au final, en 2013, après une ascension assez incroyable, j'ai commencé à me sentir vraiment mal dans ce milieu-là, dans les déplacements que je devais faire, dans la façon dont je devais communiquer pour certaines marques, les choix que je pouvais faire, moi, personnellement, je pense, maintenant, avec le recul. Et je me sentais vraiment plus du tout à l'aise dans ce rôle que j'avais finalement. Je me sentais plus à ma place, plus à l'aise. J'avais aussi une tendance à souvent, quand je partais en déplacement, à me sentir vraiment mal, pas à ma place. Moi qui avant faisais beaucoup de crises d'angoisse, j'avais tendance à beaucoup en déclencher quand j'étais dans les événements, dans des déplacements professionnels. Mais je pense parce que c'était trop pour moi en fait. J'étais vraiment pas en accord avec moi-même, avec mon moi profond. Et en 2013, j'ai en effet frôlé le burn-out. Donc j'ai senti le moment où je me suis dit, soit je continue comme ça et je sais pas ce qui va se passer derrière, mais ça peut faire peur. Soit je lève le pied, j'apprends à m'écouter, je ralentis, j'essaye de trouver un rythme qui me va. Et j'y vais un peu plus piano-piano et on voit ce que ça donne. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est un choix qui a été aussi un petit peu un arrêt net dans cette ascension que je pouvais faire dans ma carrière de blogueuse mode. Et vu que j'étais en agence, il y a eu pas mal de choses qui se sont remises en question. Et au final, c'est vrai que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire, bon, il faut que je lève le pied, il faudrait que je fasse peut-être un peu autre chose, que je m'implique dans certaines choses qui me tiennent à cœur. Et j'avais toujours voulu être dans une association. Et là, les Blues Roses, je sais même plus comment j'en suis venue à aller aux Blues Roses, mais en tout cas, j'ai passé l'entretien avec la directrice des Blues Roses de Aix. Ça s'est fait très naturellement, très bien. À la base, je voulais être en pédiatrie, et au final, elle m'a dit qu'il y avait déjà beaucoup trop de monde en pédiatrie, donc on m'a mis en gériatrie. Donc avec les personnes âgées, ou pas forcément, mais des personnes qui ont passé la soixantaine et qui ont eu des gros problèmes de santé. Et il y avait tout un pôle de l'hôpital qui était dédié à la gériatrie. Donc je me suis retrouvée là-bas tous les lundis après-midi. Et ça a été le démarrage d'une nouvelle vie, entre guillemets, parce que du coup, je prenais du temps pour les autres et à la fois, je prenais du temps aussi pour moi, mine de rien. Et ça a été une évolution complètement différente.
Est-ce que à ce moment-là, tu pensais déjà à devenir maman ? Est-ce que comment s'est profilé en fait ton souhait de devenir maman ?
Oui, alors du coup, je pensais en effet à ça. J'ai toujours voulu être maman, en fait, je crois, depuis que j'étais adolescente. Pour moi, être maman, c'était vraiment une finalité, quelque chose une mission de vie que j'avais envie d'avoir. Et du coup, c'est vrai que moi, ça avait été un peu compliqué, mon rapport à la maternité, parce que déjà, ma maman n'avait eu de cesse de nous répéter qu'elle avait eu des accouchements compliqués, qu'il s'était passé ci, ça. Bon, plus tard, elle nous en a pas parlé, bien sûr, pas quand on était enfant, mais à partir de l'adolescence, quand je posais un peu des questions, elle avait pas de demi-mesure. C'était toujours très, très compliqué pour elle, ce rapport à l'accouchement, à la maternité, les premiers temps avec l'enfant. Donc, je pense que j'ai été un peu imprégnée de tout ça. J'ai eu aussi, avant l'histoire actuelle, une histoire compliquée avec mon premier amour. Et du coup, je suis tombée enceinte de lui et j'ai perdu cet enfant. En étant enceinte, au bout de 3-4 mois, j'ai fait une fausse couche tardive. Et donc, en fait, ça a continué de me marquer dans le fait où le rapport à la maternité était compliqué, puisqu'il y a eu des suites post-opératoires qui ont été compliquées. Donc, les médecins n'étaient pas très positifs sur la suite en me disant que voilà, ce serait peut-être compliqué pour moi de devenir maman. Donc, forcément, j'avais ce désir en moi et j'avais cette idée que ça pourrait être compliqué. Donc, c'était pas forcément évident à gérer. Très tôt, j'en ai parlé à mon compagnon actuel en lui disant que je voulais avoir un enfant, que pour moi, c'était un rêve. Donc, lui, il savait complètement que j'étais à fond là-dessus et que je voulais absolument avoir un enfant. Mais lui, pour lui, c'était plus vers 30 ans. Donc, c'est vrai qu'il m'a fait bien, bien attendre puisqu'on a eu un enfant quand moi, j'avais 29 ans et lui, 30. Donc, il a réussi son coup, pour le coup. Et du coup, ça s'est très bien passé puisqu'on a eu Daphné tout de suite. Donc, ça m'a beaucoup rassurée. Et après, voilà, donc le rapport à la maternité, ça a été un peu ça. Ça a été compliqué dans tout ce que je pouvais imaginer. Et puis, au final, la grossesse qui est arrivée très rapidement.
Alors, comment s'est passée cette première grossesse ?
Compliqué. Du coup, j'étais très contente de tomber enceinte. Mais par contre, il y a des choses qui m'ont un peu rattrapée ensuite. C'est que du coup, la grossesse a été compliquée. Ça n'a pas été forcément évident. Bon, les trois premiers mois, pas très bien, malade. J'étais vraiment, je pense, l'ombre de moi-même. Ça a été vraiment pas simple. Après, ça s'est bien passé le deuxième trimestre. Troisième trimestre, les nausées qui reviennent un peu, les vomissements, les étourdissements, tout ça. Et après, soit je ne voulais pas accoucher, soit Daphné ne voulait pas sortir, soit il y avait un peu plein de choses qui se mettaient en place pour que l'accouchement se passe pas super bien. Et donc, au final, ça s'est pas passé super bien.
L'accouchement en lui-même ?
Ouais, l'accouchement en lui-même, la préparation, l'équipe médicale le soir du déclenchement, parce que du coup, il y a eu un déclenchement. D'accord. Donc du coup, ça a été pas évident du tout, puisque bah, moi, c'était ma première grossesse. Je pensais accoucher avant, comme tout le monde le disait. Ouais, t'accouches des fois avant, tout ça, j'avais des idées. C'est vrai que pendant une grossesse, tout le monde a toujours son mot à dire. Et au final, on se retrouve qu'il n'y a jamais rien qui se passe comme on nous le dit. Et on n'est pas forcément au fait de plein de choses. Et on découvre un peu les choses. Et des fois, ça peut être un peu compliqué parce qu'on est un peu dans une société hyper positive et du coup, on a l'impression que dès qu'il se passe un truc négatif, personne n'est au courant ou personne veut nous en parler ou personne peut nous expliquer. Donc, on se retrouve un peu seul au monde. Et du coup, bah, j'ai eu un déclenchement à J+3. Donc, ça a été chaque jour retour à l'hôpital, faire les monitos, voir comment ils allaient me déclencher parce qu'il y a eu une erreur de diagnostic sur le poids. Ils pensaient que c'était un bébé qui allait sortir à 4,2 kg. Moi, je fais 1m55, donc normalement, il faut faire une radio du bassin, normalement, ça passe pas, il faut faire une césa, tout ça. Et donc, pendant 3 jours, ils ont pinaillé à savoir si le bébé à 4,2 allait sortir, est-ce qu'on faisait une césarienne ? Non, on fait pas une césarienne, on vous fait passer par voie basse, tatati, tatata. Et pour, au final, faire un déclenchement à J+3.
Et alors, ta fille Daphné arrive, tu deviens maman. Et ça déclenche une certaine prise de conscience, ça amorce en fait le début d'une prise de conscience pour toi.
Ouais. C'est vrai qu'on dit que souvent un enfant c'est le début d'une nouvelle aventure qui change beaucoup de choses dans la vie d'une jeune maman. Et moi c'est vrai que pour le coup Daphné, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais ça a été vraiment le début d'une nouvelle moi. Enfin, je pense que j'ai accouché de Daphné, mais j'ai aussi accouché un petit peu d'une nouvelle moi en même temps. Bien sûr, je me suis découverte en tant que maman, donc ça, voilà, c'est tout nouveau, on prend ses marques, tout ça. Mais à côté de ça, il y a eu un changement de vie qui a commencé à s'amorcer avec Daphné. Je pense que la première idée, ça a été d'amorcer ce changement de vie pour elle, donc pour la protéger, pour la mettre dans la meilleure des vies, pour lui créer un espèce de petit cocon. Et à côté de ça, bah, je sais pas, ça a commencé à changer des choses en moi par rapport à mon style de vie, par rapport à mon rapport à la vie, par rapport à moi-même, par rapport au travail à faire sur moi-même. Enfin, il y a plein de choses qui se sont mises en place sans que je comprenne vraiment tout de suite pourquoi.
Du coup, quels ont été ces changements, ces premiers changements ?
Alors, bah, c'est venu petit à petit. En fait, au départ, je me rappelle, ça a été l'alimentation. Daphné étant intolérante aux protéines de lait de vache, ça a commencé à remettre un petit peu en cause notre façon de nous nourrir, de consommer. On a commencé à se rencarder un petit peu sur plein de choses par rapport à l'alimentation. Donc déjà, on a commencé par ça. Et ensuite, il y a eu aussi le fait de se dire, on vit en ville. Est-ce que pour un enfant, nous, on avait grandi tous les deux à la campagne, on s'est dit que ça pourrait être bien quand même d'aller vivre à la campagne, bien qu'on voulait rester proche d'Aix, parce que c'est une ville qu'on adore, et que niveau boulot, voilà, c'est vrai que c'est quand même bien d'être à côté d'Aix-en-Provence. Donc du coup, on s'est dit, ben, on peut peut-être se mettre un petit peu à la campagne, au vert, ce serait sympa. Et mon compagnon a eu tout de suite l'idée de faire construire une maison éco-friendly, donc il ne savait pas vraiment encore comment. Mais du coup, l'idée, c'était de faire construire une maison en bois, éco-friendly, passive. Donc ça a été aussi voilà, le changement pour nous en tant que couple et le changement pour nous en tant que parents pour Daphné.
Et comment t'as géré ça ? Du coup, tu deviens maman et en même temps, tu fais construire une maison.
En fait, on est un peu comme ça. Je pense que pour tous les gens qui me suivent, ils ont bien compris qu'on avait toujours 10 000 projets dans notre vie et qu'on ne savait pas rester sans rien faire sur une journée. Donc c'est vrai que pour moi, ce n'était pas du tout irréel, impensable de mener tout ça de front. Et c'est sûr, ça nous a demandé beaucoup d'énergie et qu'on a dû être un peu sur tous les fronts. Mais pour le coup, on était contents de le faire et c'était un projet qu'on menait avec le cœur. Donc ça s'est très bien passé et c'était top.
Et alors après, tu retombes enceinte. Tu as
18 mois plus tard.
Voilà, 18 mois plus tard. Comment se passe cette deuxième grossesse ? Il me semble que
mieux au début.
Au début, oui.
Au début. Après, au cinquième mois, à la 24e semaine, bam, retour de la vie, puisque j'ai failli accoucher de Noé, donc menace d'accouchement prématuré. Donc du coup, j'ai été... Donc mon gynécologue, me connaissant bien, étant proche de moi, me faisant confiance, m'a médicamentée. Et pour arrêter les contractions, et m'a demandé de ne plus bouger de mon lit, de mon canapé pendant 3 mois jusqu'à la fin de la grossesse. Donc j'ai passé 3 mois alitée.
Et alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois ?
Beaucoup de choses. Alors c'est drôle parce qu'en fait on avait créé un groupe avec des lectrices et une amie qui était aussi dans le même cas au même moment. Donc on s'est retrouvés à 5 futures mamans dans la même situation, avec les mêmes consignes. Donc on était toutes les cinq chez nous, sur notre canapé ou sur notre lit, à rien pouvoir faire et à souffrir H24 de nos contractions et de nos angoisses. Mais à côté de ça, on s'est rendu compte qu'il se passait plein de choses, chacune de notre côté pour différentes raisons. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que ça a été une des épreuves les plus transcendantes de ma vie. C'est-à-dire que j'ai du coup essayé de comprendre pourquoi ça m'arrivait, pourquoi j'en étais là, pourquoi mon corps parlait, pourquoi ce bébé voulait sortir plus tôt. Et du coup, j'ai remis en question plein de choses. Je me suis rendu compte aussi de la présence de la famille, des amis, de cette espèce de solitude qu'on peut ressentir dans les épreuves parce que d'un coup, tout le monde disparaît, plus personne n'est là. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident. Je suis passée par des moments où je pouvais être en pleurs et à me dire que j'allais devenir folle à devoir vivre ça et à ressentir toutes ces émotions, et des moments où j'étais hyper contente d'être dans cette situation parce que ça me permettait justement d'être moi-même, d'en apprendre plus, de découvrir plein de choses. Et au final, c'est une épreuve que je regrette pas du tout, et je dis merci à la vie, même si ça a été une des plus grosses épreuves de ma vie jusqu'à présent. Ça a été une épreuve qui m'a marquée, qui m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui.
Et comment tu gérais, du coup, Daphné, à ce moment-là ?
C'était très compliqué. Franchement, c'était très compliqué. Il n'y aurait pas eu un premier enfant. Je pense que je l'aurais peut-être moins mal vécu en soi, même si c'est quand même quelque chose de très compliqué et à la fois de très douloureux aussi, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Mais du coup, là, d'avoir Daphné, c'était pas évident pour moi parce que je suis quand même une mère poule. J'adore avoir mes enfants contre moi, avec moi, m'occuper d'eux, toujours avoir les idées d'activité, des idées de sortie, des petites surprises pour leur quotidien. Et là, du coup, je devais déléguer au max. Donc, je devais être dans le lâcher prise complet. C'est-à-dire que je n'avais pas d'autre solution. Alex s'occupait encore des travaux à la maison. Il y avait la terrasse à finir. Il fallait avancer aussi parce qu'il y avait le deuxième enfant qui arrivait. Donc, il fallait qu'on gère un peu tout ça, tous ces travaux-là. Ce qu'on pourrait moins faire par la suite. Et donc, le fait de laisser Daphné, de lui expliquer que non, maman ne pouvait pas se lever pour jouer au Lego, parce que si maman se levait, elle risquait d'accoucher de bébé, parce que j'en étais au point d'avoir des contractions si je tendais le bras. Donc, c'était devenu invivable pour moi. Et à la fois, j'essayais de garder le sourire et de ne pas faire ressentir tout ça à mon enfant. Donc, c'était vraiment très complexe. Et Daphné, au contraire, a été hyper en patte sur le coup et a été vraiment à s'occuper de moi, à jouer avec moi, mais là où j'étais. Donc si j'étais sur le lit, elle montait sur le lit avec ses jouets pour jouer. Si j'étais sur le canapé, elle venait avec moi sur le canapé. Elle était hyper douce, hyper à l'écoute. Elle était vraiment apaisée par rapport où avant elle pouvait faire des petites crises pour un oui, pour un non. Là, c'était vraiment, je suis la grande fille, j'aide ma maman. Donc j'ai trouvé ça génial de voir ça.
Les rôles un peu inversés.
Voilà, c'est ça.
Et alors, donc, l'arrivée de Noé, ta deuxième fille, va finir d'impulser ton désir de changer. Quels ont été ces nouveaux changements quand tu es devenue maman pour la deuxième fois ?
Je pense que quand Noé est arrivé, j'avais vécu des choses quand même super fortes avec cette épreuve. Donc du coup, le changement, il a été vraiment flagrant et ça a continué d'avancer dans le sens de consommer moins mais mieux, de penser à l'avenir pour mes filles, de penser à l'avenir forcément de la planète, d'essayer de communiquer sur mes réseaux sociaux différemment. En fait, vraiment, je pense que ma ligne éditoriale a commencé à se rapprocher au max de ma vie réelle à ce moment-là. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, avec Daphné, j'étais encore un petit peu en recherche. J'avais commencé à me mettre sur ce chemin de vie plus engagé, plus éthique, plus écologique, plus consciencieux et plus connecté à la Terre. Et du coup, avec Noé, ça a continué de s'axer là-dessus. Et ça a continué de me révéler aussi, moi, comme je devais être. Donc, c'était important. Enfin, ça a été important pour ça. Ça a été un gros changement encore.
Et est-ce que donc le déclic pour toi, ça a vraiment été d'avoir des enfants et notamment de vouloir le meilleur pour tes filles ?
Oui, je pense que ça a été une partie du déclic. Ça a été une partie du déclic parce que je me suis dit, maintenant je suis maman, je me rends compte à quel point c'est précieux la vie. Pas ma vie, parce qu'au final, on peut avoir un détachement quand on est maman sur sa vie. Mais par contre, la vie de nos enfants, elle est hyper précieuse. Et je me suis dit, c'est moi la maman. Donc c'est moi, en gros, qui ai maintenant des responsabilités, une espèce de mission de guide. Parce qu'au final, on dit qu'on est maman, mais on est aussi beaucoup un guide dans leur vie. Et maman, c'est le mot qu'on s'attribue. Mais au final, on est un guide pour ses enfants. On doit leur montrer le bon chemin. On a été un arc de passage pour qu'ils viennent sur Terre. Donc au final, pour moi, c'était important d'avoir cette mission-là, de la prendre au sérieux et de vraiment me rendre compte que chaque chose que j'allais leur inculquer, ce seraient les choses que par la suite, elles transmettraient elles aussi ou qu'elles garderaient de toute façon dans leur vie comme le schéma acquis. Donc j'avais pas envie de donner des schémas faussés comme on avait pu m'en donner ou comme j'avais pu en voir ou en acquérir différemment. Mais du coup, voilà, c'était vraiment cette idée d'être un guide pour mes enfants et de passer les bons messages, d'être dans le vrai, d'être dans le juste.
Parce qu'aujourd'hui, voir ses enfants sur cette planète, ça, c'est quoi exactement, enfin, c'est...
Alors, je sais qu'il y a souvent des personnes qui se disent « Moi, on est sur cette planète, c'est compliqué, il ne faut pas avoir d'enfants, en ce moment, c'est une catastrophe, il n'y a pas de vision sur l'avenir, il ne faut pas faire d'enfants. » Il y en a qui pensent comme ça. Moi, je ne pense pas du tout comme ça. Je pense qu'il y a des humains sur cette Terre qui sont capables de se reproduire et qu'aujourd'hui, on peut le faire de manière à ce que ça se passe bien par la suite. C'est-à-dire qu'on est tous ici pour prendre soin de notre Terre, de notre planète, qui est quand même notre maman à la base. À un moment donné, il faudrait arriver à prendre conscience de tout ça. Et c'est vrai qu'avoir des enfants, c'est leur transmettre les bons messages aussi par rapport à ça. Les enfants, ils sont là pour avoir les comportements qu'on va leur donner. Si on leur donne des comportements complètement irraisonnés, c'est sûr qu'ils vont les reproduire. Mais si on leur communique des comportements justes, positifs, ils peuvent les reproduire aussi. Donc c'est là où c'est important. Et aujourd'hui, avoir des enfants sur cette planète, c'est encore quelque chose de beau et de magnifique. Il n'y a rien de plus beau que de voir des enfants grandir, s'épanouir, être heureux. Et ils nous apportent tellement, en fait.
Et du coup, tu leur transmets comment à tes filles tes nouvelles valeurs, plus écologiques, plus éthiques ?
Alors, souvent, quand on voit la transmission, on se dit que c'est ce qu'on va dire ou ce qu'on va donner comme exercice à nos enfants. Et au final, je me dis que déjà, tout le travail qu'on fait sur soi, sur nous en tant que parents, c'est déjà hyper important, c'est un peu la base, parce que si nous on est bien dans nos baskets et qu'on se comporte bien, nos enfants c'est ce qu'ils vont forcément reproduire par mimétisme. Quand ils apprennent à manger avec une cuillère, ils apprennent à manger avec une cuillère pas parce qu'on leur met dans la bouche, parce qu'ils nous voient faire. Quand ils apprennent à parler français, c'est parce qu'ils nous voient parler français, ils nous entendent parler français. Donc au final déjà il y a tout un travail qu'on peut faire nous en tant que parents pour être mieux dans notre peau, mieux dans notre tête, mieux dans nos baskets, mieux dans notre corps, mieux dans notre façon d'interagir avec les autres. Déjà, tout ce travail-là qu'ils vont reproduire par mimétisme, c'est hyper important. Et après, il y a tout ce qu'on fait, nous, au quotidien, pour essayer de leur donner les bons schémas. Donc, de consommer bio, de consommer local, de consommer de saison. Donc, ça veut dire que ça implique qu'on leur apprenne beaucoup de choses. Quelles sont les saisons? Pourquoi il ne faut pas manger du concombre toute l'année? Pourquoi il faut manger des fruits et des légumes qui viennent du petit marchand d'à côté, du petit producteur d'à côté? Pourquoi on va dans une biocoop, par exemple, et on va pas à Intermarché juste en bas de chez nous. Enfin voilà, c'est tout au quotidien des clés qu'on peut leur donner pour qu'elles comprennent qu'on peut vivre d'une certaine manière et pas d'une autre. Mais si on vit d'une certaine manière, c'est pour cette raison-là. Et on leur explique toujours les choses. Bon, Noé est bien sûr trop petite pour interagir encore avec nous sur tout ça. Mais par exemple, Daphné, si tu lui demandes pourquoi elle mange pas les animaux, elle va t'expliquer pourquoi. Parce que c'est ses amis, parce qu'elle a Ava, c'est son chien, que c'est comme si elle mangeait un bout d'Ava. Enfin, au final, voilà, on essaye de vraiment leur mettre à leur niveau des explications pour qu'elles comprennent.
Et donc, elles sont véganes
Alors, les filles n'ont jamais pris de lait animal infantile. Mmh. Donc ça, elles ont été végétaliennes jusqu'à qu'elles commencent les petits pots. Les petits pots, pour Daphné, on avait introduit tout ce qui était viande, poisson, parce qu'on était encore en transition, que le papa n'était pas végétarien. Donc, du coup, il y avait un petit peu cette dualité au niveau des façons de penser. Par contre, Noé, elle est végétarienne et l'a toujours été. Et depuis que le papa est végétarien, à la maison, il n'y a plus de viande, il n'y a plus de poisson. Il reste un petit peu de fromage pour le papa. Donc, de temps en temps, elles en ont un petit morceau. Et voilà. Donc, sinon, on vient petit à petit à devenir végétalien. Mais moi, je le suis. Mais eux, ils sont en transition encore.
D'accord. Et tes filles, elles ne vont pas à la cantine,
non.
À la crèche ?
Non. Non, non. En fait, on peut apporter nous-mêmes les repas, que ce soit à la crèche et à l'école. Donc ça, c'est bien. Ça nous permet de pouvoir leur cuisiner ce qu'on veut et de leur mettre des box avec un peu tout ce qu'on veut dans la box. Après, ce qui est bien, c'est qu'à l'école où va Daphné, qui est une école Montessori, il y a un traiteur. Et normalement, l'année prochaine, ils devraient proposer une option végétarienne, végétalienne. Donc ce serait super.
Et alors, avec le papa, comment s'est passée toute cette transition ? Est-ce que vous étiez dans le même mouvement en même temps ?
Alors, avec le papa, ça fait 13 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. Donc, il y a quand même une longue histoire d'évolution déjà, humainement parlant, parce que de 20 ans à plus de 30 ans, ben, forcément, on évolue, on change. Et avec tout ce qui s'est passé, ben, c'est vrai que moi, j'ai évolué beaucoup plus vite que lui sur certaines choses. Et j'ai pas été au même niveau que lui sur d'autres choses. Donc, ça a pas été toujours évident. on a toujours dû faire une espèce de balance pour que ça s'accorde. Aujourd'hui, par contre, il est complètement d'accord avec tout ce que je fais, avec tout ce que je peux lui expliquer, avec les démarches que j'ai, avec tout ce que je mets en place. Il est complètement en phase avec tout ça, bien que je pense qu'il y a certaines choses qui le dépassent et qui, bon, peut-être l'intéressent pas forcément. Mais il a ce, voilà, il a cette espèce de recul en me disant « si ça te va pour toi, si c'est bon pour toi, fais-le ». Et après, je sens quand même que, mine de rien, j'ai une espèce de traînée qui fait que ça entraîne au final ma famille, parce que c'est vrai que bah là, le fait de devenir végétalien, il aurait pu me dire « attends, c'est ton délire à toi, moi, il est hors de question que j'arrête les produits animaux, tout ça ». Et au final, bon, il est devenu végétarien, là, il est en train de passer végétalien, on mange beaucoup plus de cru à la maison, enfin voilà, donc il y a des petites choses qui se mettent en place comme ça, où il vient derrière moi, en fait. L'histoire du zéro déchet, le composteur, le potager, enfin tout ça, c'est moi qui l'amène un petit peu. Lui, il a eu la maison en bois, et moi, je brode un peu autour de tout ça, de plus en plus, de façon écologique, éthique, engagée.
Tu as créé, il y a quelques mois, le compte Insta « Et si on changeait ensemble ?» Tu as changé le nom de ton blog, qui est devenu...
The Little World.
Est-ce que dans tout ce nouveau, on va pas dire concept, mais est-ce qu'il y a beaucoup de mamans qui te demandent des conseils ?
Alors, avec tout ce que j'ai lancé récemment, donc que ce soit le compte Insta et si on changeait ensemble, ou tout ce que j'ai pu transformer au niveau du blog et dans ma façon de communiquer, j'ai pas beaucoup de mamans qui me demandent des conseils par rapport à l'éducation de leurs enfants, parce que je pense que c'est pas mon propos premier, mais c'est pas le sujet que je traite en priorité sur mes réseaux sociaux. Par contre, j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi dans le cadre de changements de vie, de questionnements sur eux-mêmes, de mal-être, voilà, d'évolution en cours. J'ai beaucoup de gens qui viennent me communiquer ce genre de choses, des messages très positifs aussi pour me remercier. Parce que je pense que finalement, je partage tellement, sans filtre, que ce soit dans les textes ou en story, qu'au final, il n'y a pas besoin d'avoir d'échanges en plus sur ce que je dis. C'est plus après les gens qui vont se le... Comment dire ? C'est des petites graines que je vais mettre en place, que je vais un peu jeter à droite à gauche. Et ça se plante. Et quand les gens ont fini de voir un peu éclore ça, ils viennent à moi en me disant « Bon, bah, soit merci pour ce que tu as fait parce que j'ai fait ci, ça, ça. Soit est-ce que tu aurais des choses à me dire par rapport à ce que j'amorce dans ma vie, par rapport à ce que j'ai vécu, quelle technique je pourrais utiliser pour me sentir mieux, qu'est-ce que je pourrais faire dans mon quotidien pour arrêter de consommer du plastique, de ci, de ça. » Enfin, voilà, c'est plus des conseils de vie, on va dire.
Et alors, qu'est-ce que tu aimerais transmettre avec, avec tout ton nouveau blog ?
Ce que j'aimerais transmettre, je pense que c'est vraiment des conseils pour se sentir mieux, pour être sur son chemin de vie. Je pense que moi, ce qui me parle le plus aujourd'hui, c'est ça. Avec tout ce que j'ai vécu, c'est sûrement pas pour rien. Aujourd'hui, j'ai quand même une communauté qui est là, qui est présente, qui est fidèle. Et je me dis que si je peux apporter les bons messages pour l'avenir, au final, de l'humanité, c'est important. Donc au final, je pense que je fais partie peut-être de ces personnes qui ont des messages à délivrer. Qui sont forts et qui peuvent aider certaines personnes justement à s'extraire un peu la tête de ce qu'on vit au quotidien, de cette société qui s'est complètement créée de A à Z et qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on doit faire vraiment ici.
La société de consommation.
Voilà, la société de consommation, cette société qui nous dicte un peu qui être, comment penser, quoi faire, quand le faire, pourquoi le faire. Tout ça, ça me paraît tellement aujourd'hui fou, comme une espèce de scène de théâtre qui s'est mise en place et où on doit répéter constamment des rôles qui ne sont pas les nôtres. Et donc au final, on en devient tous à devenir un peu fous, avec des burn-out, des dépressions, des internements, des maladies. Enfin, tout ça est un peu lié à cette société qui finalement nous met dans une espèce de moule qui ne nous correspond pas. Donc je me dis, si je peux, via mes réseaux sociaux, passer des messages positifs, des petites clés qui peuvent aider tout un chacun à devenir soi, à aider ses enfants... Et à changer le monde de demain, ce serait super.
Comme tu le disais, ouais. On nous assaille de recommandations qui font souvent culpabiliser. Mmh. Il faut manger bio, manger moins, manger mieux, faire attention à ceci, acheter cela.
Oui.
Comment tu conseillerais quelqu'un qui souhaite devenir plus attentif à la planète et à lui-même?
Alors, du coup, je pense que c'est des choses que je fait, c'est des choses que j'essaye de montrer ça au quotidien sur mes réseaux sociaux. J'essaye de montrer à tout le monde qu'on peut y aller étape par étape. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais dit à personne, non mais attends, ce que tu fais, c'est pas bien du tout, il faut le faire comme ci, comme ça, et puis de toute façon, c'est comme ci et comme ça, c'est pas autrement. Je suis vraiment dans un discours de, ok, tu pars d'où, t'en es où, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te commence à te titiller, quel est le message que t'as pu lire, que t'as pu voir, qui commence à faire un peu son chemin dans ta tête, comment tu pourrais faire toi à ton niveau dans ton quotidien pour mettre ça en place. Je suis vraiment dans cette idée de step by step, étape par étape, faut pas brûler les étapes, il faut du temps au temps. C'est pour ça que moi je suis pas du tout en accord avec tout ce qui est challenge, défi, 30 jours, une semaine. Ça pour moi je trouve ça complètement fou aujourd'hui de parler comme ça parce que on a tellement un enjeu qui est majeur. On a quand même une mission qui est hyper importante. Aujourd'hui, on doit prendre conscience de qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on fait ici, où est-ce qu'on va et comment on peut tous se donner la main pour changer l'avenir. Donc, au bout d'un moment, c'est un truc de fou ce qui nous attend. C'est comme si on était tous des super-héros. On n'a pas de cap, on n'a pas de nom de super-héros, mais on a une mission hyper importante qui nous attend. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire culpabiliser les gens. J'ai vraiment envie de passer des messages en douceur, d'informer. C'est pour ça que souvent, je suis beaucoup dans l'information. Je montre pas certaines actions, mais je suis plus dans l'information parce que si déjà, à la base, t'as les informations, ça peut commencer à faire son bonhomme de chemin. Une fois que t'as eu les informations et que t'as digéré le truc, parce qu'il faut du temps pour le digérer généralement, tu peux te dire, ah oui, je peux peut-être faire telle ou telle action à mon niveau. Mais de dire tout de suite... Il faut pas faire ci, parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Je trouve ça hyper agressif et c'est pas du tout dans la bienveillance.
Et quel regard tu portes alors sur la blogueuse mode que tu étais avant ?
Même des fois, quand je peux repars en arrière et que je regarde tout ça, je me dis oui, bah, c'était une version de moi qui n'est plus la version d'aujourd'hui. Alors, ça me fait doucement sourire parce que voilà, je me dis ouh, j'ai pu être comme ça, j'ai pu dire ça, j'ai pu faire ça. Mais c'était moi quand même, donc je vais pas me l'enlever. Il y a quand même une partie de moi bah, voilà, qui aime bien être bien habillée, être bien maquillée, se faire pomponner. Enfin, il y a bien sûr toute cette partie-là qui existe sûrement encore quelque part, mais aujourd'hui, c'est plus la personne que je suis, mais je le regarde quand même avec un petit sourire en coin et je me dis que c'était mignonné quoi.
Et alors comment tu fais aujourd'hui justement pour t'habiller
Ah bah je ne m'habille plus.
Je vis nue.
Au fond de ma petite maison en bois, au fond de ma forêt, dans ma maison en bois. Non pas du tout, mais en fait je ne consomme presque plus de mode. Si je consomme mode, je vais faire un achat vraiment réfléchi auprès de marques qui sont dans la même idée que moi, de l'engagement, la durabilité, éthique. Voilà, j'ai envie de savoir d'où vient le produit, comment il a été produit, qui a pensé ce produit-là. J'ai vraiment envie de réfléchir mes achats. Donc du coup, je consomme moins, mais mieux. Et quand je peux passer par des deuxièmes mains, par du troc entre copines, voilà, par des solutions comme ça, je vais le faire aussi parce que je trouve ça super sympa. Ça permet de renouveler assez souvent. Mais maintenant, je suis vraiment dans l'idée du dressing minimaliste. Donc chez moi, il y a une toute petite penderie par rapport à avant où il y en avait partout. Il y en avait même dans le garage, dans les cartons. C'était n'importe quoi. Et là, vraiment, pour le coup, c'est dressing minimaliste. Et ça me va bien, en fait, je me prends plus la tête et j'ai pas envie d'avoir plus de choses. En fait, je me rends compte que j'ai l'essentiel et que ça me suffit.
Et qu'est-ce que tu veux alors pour tes filles
C'est une question super difficile, ouais. Ça. Je crois qu'en fait, je veux rien, je veux juste qu'elles soient heureuses. La seule chose que j'ai en tête, c'est qu'elles soient heureuses.
Mais par rapport à la planète et tout ça
Du coup, qu'elles soient heureuses sur une planète qui est heureuse. C'est en lien, je crois. Mais non, j'aimerais que vraiment l'humanité soit apaisée parce qu'aujourd'hui, on a une humanité hyper violente. Donc forcément, en tant que maman, j'ai toujours en tête de me dire et si elles font une mauvaise rencontre, et si pour X raison dans leur vie, il se passe ci, il se passe ça. Mais j'aimerais juste en fait que l'humanité ait changé et que les choses soient apaisées, bienveillantes et qu'il y ait de l'amour partout et qu'au final... voilà, la planète aille bien, qu'on n'ait plus de soucis sur à se dire « mais non, tant, dans 10 ans, on sera plus là parce que si, parce que ça ». J'aimerais juste qu'elles vivent dans un monde en paix et qu'elles soient, elles, en paix.
Alors, on va passer aux questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman aixoise ?
C'est quoi être une maman aixoise ? Alors, Aix, c'est une ville en soi, mais c'est quand même hyper proche d'une très belle nature. On n'est pas loin de la mer, pas loin de la montagne. Donc du coup, pour moi, être une maman aixoise, c'est à la fois profiter des avantages de la ville, donc avec des activités en ville qui peuvent être super sympas. D'ailleurs, mes filles, elles adorent aller prendre le petit déjeuner en ville, c'est voir toute la vie autour d'elles, elles sont un peu comme moi pour ça. Prendre leur petit déjeuner, ça, elles adorent. Et à côté de ça, se faire des sorties à la Sainte-Victoire pour aller marcher ou partir à la montagne parce que c'est à une heure d'ici, donc on peut aller à la neige hyper facilement, ou à la mer, c'est à une demi-heure. Donc c'est à la fois mixer la ville et la campagne pour les enfants et pour qu'ils puissent se reconnecter à la nature, mais à la fois être dans la conscience de la vie avec tous ses avantages et ses désavantages que cela peut impliquer.
Ton endroit kids-friendly à Aix ?
Alors, il y a un endroit qui est super cool, c'est Kid Essence. C'est un endroit où on peut aller avec ses enfants, faire des activités peinture, musique, yoga, relaxation. On peut manger un petit goûter, on peut lire un petit livre. Donc c'est super sympa, c'est un petit spot sympa.
Et quels sont tes projets pour toi et ceux en famille ?
Alors du coup, c'est des projets pour moi, mais c'est un peu en famille aussi, parce que du coup, je suis sur la rédaction d'un livre. Qui j'espère s'appellera « Et si on changeait ensemble ?» Et du coup, ça implique de changer soi, mais de changer aussi en famille. Donc j'emmène un petit peu toute ma famille dans cette aventure-là, puisqu'on partage quand même dans ce livre des moments de vie, des idées d'activité, des idées de sortie, des idées écolo, des idées de bien-être en famille. Enfin, y a plein de choses qui vont être dans ce livre. Et à côté de ça, donc projet pour moi perso, ce serait de continuer le blog, mais avec une ligne éditoriale beaucoup plus marquée, beaucoup plus moi, en fait, comme je suis maintenant. Il faut savoir que j'avais laissé un peu le blog à l'abandon parce que je me sentais plus à l'aise d'écrire dessus, parce que je pense que je pensais à l'ancienne ligne éditoriale et j'avais un blocage au niveau de la transition. Aujourd'hui, je suis en train de faire cette transition, donc je suis super contente. Ça va me permettre de reprendre le blog, reprendre mes réseaux sociaux en main correctement et à la fois d'avancer sur le livre et de pouvoir peut-être, pourquoi pas, le faire éditer. Et du coup, par la suite, j'aimerais aussi peut-être me mettre dans la conception de stages de reconnexion à soi, de reconnexion à la planète, de conscience des autres. Je ne sais pas encore trop comment je vais articuler ça, si ce sera en tant que coach de vie ou thérapeute, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que je vais plus m'axer sur l'aide aux autres et à les aider dans leur chemin de vie. En famille, on a prévu un voyage l'année prochaine. On devrait partir avec une agence qui s'appelle la Parenthèse Bienveillante. Et du coup, ce sera un voyage au Sri Lanka. Donc un voyage de reconnexion à soi, mais à la fois un voyage de reconnexion au féminin sacré. À la base, c'était un voyage qui était prévu pour les femmes. Et petit à petit, c'est en train de s'axer avec les papas, avec les enfants. Donc je pense que ça va être un voyage au final en famille, autant culturel qu'écologique, que de rencontres spirituelles. Ça va être un truc de fou. Donc j'ai trop hâte.
Génial. Merci beaucoup, Aude.
Merci.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Aude, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 11 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.